Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Bonjour auditrices et auditeurs de Brassage. Alors vous êtes dans un brassage de 2024, mais ce sera un florilège, un exemplaire, parce qu'il y a beaucoup de florilèges, mais ce sera une sélection, on va dire, essentielle. Florilège 2023, trois petits points à suivre en 2024. Et fait première partie, puisqu'il y aura également un florilège 2023 à suivre en 2024, côté social, donc le dernier jeudi du mois de janvier 2024. Et là, eh bien, c'est sur l'aspect sociétal et notamment une grande question qui avait été abordée avec plusieurs personnes en 2023 dans une émission consacrée à la fin de vie choisie concernant justement les modalités de cette fin de vie. Théoriquement, il devait y avoir une loi qui devait être votée en 2023 à la suite d'une convention citoyenne qui s'était réunie et qui avait rendu ses conclusions au printemps 2023. Eh bien non, on a préféré consacrer son énergie sur d'autres thèmes qui étaient beaucoup moins préoccupants pour la population, à savoir entre autres l'immigration, etc. etc. Et eh bien, en 2024, se profilent des pistes d'éventuelles modifications législatives, mais qui seront certainement, pour ce que l'on en sait déjà en début 2024, réduites vraiment à sa plus simple expression. Ce que nous disait d'ailleurs à la fin de l'entretien de ce collectif, justement, ce qui risquait de se profiler. Eh bien, je vous propose d'entendre, bien sûr, la majeure partie de cette émission, enfin les propos essentiels que vous pouvez retrouver sinon dans son intégralité sur www.rcn-radio.org. Et on commencera avec, ça s'imposait, Léo Ferré, Ne chantez pas l'amour.
Chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poètes maudits.
Je la chante et dès lors, miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour. La mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle, et si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort, la mort, la mienne n'aura pas comme dans le Larousse un squelette, un linceul, dans la main, une faux. Mes filles de 20 ans, à chevelure rousse, en voile de mariée, elle aura qu'il faut. La mort, la mort. De grands yeux d'océan, une voix des lèvres carmin, douce, elle apaisera sur sa poitrine nue mes paupières brûlées, ma gueule en parchemin. La mort, Requiem de Mozart, une ombre dans ce macabre, pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns. La mort, c'est la beauté, c'est l'éclair vif du sabre, c'est le doux pain total de l'esprit et des sens. La mort, la mort. Et n'allez pas confondre et les faits et la cause. La mort est délivrance, elle sait que le temps quotidiennement nous vole quelque chose. Dedans, la mort, la mort. Elle est euthanasie, la suprême infirmière. Elle survient à temps pour arrêter ce jeu. Près du soldat blessé dans la boue des rizières, chez le vieillard glacé, dans la chambre sans feu. La mort, la mort. Le temps, c'est le tic-tac monstrueux de la montre. La mort, c'est l'infini dans son éternité. La mort.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Je suis vraiment heureuse d'avoir plusieurs invités en studio, car le thème qui nous concerne tous est la mort et surtout les périodes, les instants, les journées, les mois qui précèdent cette issue fatale, létale pour tout le monde. Et le thème de cette émission de Brassage, c'est fin de vie choisie, puisque c'est notamment un collectif avec certaines organisations qui aborde ce sujet très sensible. Alors je dis très sensible en France, mais nous en saurons davantage au fil de cette heure de brassage, puisque d'autres pays ont déjà légiféré d'une façon nettement plus tolérante que ce qui se passe en France, où il y a d'ailleurs un temps fort en ce printemps de 2023 dont nos invités pourront nous parler. Alors tout d'abord, eh bien, bonjour Sylvie Prévost de La Libre Pensée.
Bonjour Hélène.
Bonjour Charles.
Bonjour Hélène.
Et donc également de La Libre Pensée, oui. Entre autres, mais bon c'est plus
et
à ce titre.
Et aussi Ultime Liberté.
Voilà. Bonjour Gilles Laridan.
Bonjour Hélène.
Alors vous, c'est donc décliné peut-être.
Donc je suis président de l'Union des familles laïques de Meurthe-et-Moselle, donc une association familiale, membre de l'UDAF, mais aussi adhérent à Ultime Liberté.
Alors justement, bonjour René Malvaux.
Bonjour Hélène.
Alors je vois également Ultime Liberté.
Ultime Liberté, voilà, association nationale créée en 2009 et qui plaide pour la liberté de tout à chacun, le moment venu de choisir comment il va décéder.
Alors justement, je parlais de ce temps fort. Ce temps fort, vous pouvez juste présenter à nos auditeurs pourquoi, à l'issue de ce temps fort national en France, eh bien, vous avez souhaité donner un certain nombre d'informations à nos auditeurs.
Alors, nos associations respectives se sont, en Meurthe-et-Moselle, rassemblées au sein d'un collectif donc qui s'est constitué à la fin de l'année dernière, qui a connu un premier temps fort en décembre, le 9 décembre, une date importante, puisque ce collectif s'appelle Collectif Laïcité et Fin de Vie Choisie, et nous associons très étroitement ces deux thèmes fondamentaux, la laïcité et la fin de vie. Alors, peut-être présenter ce collectif. Il y a l'association Ultime Liberté dont René vient de parler, l'Union des familles laïques que Gilles a présenté, la Libre Pensée, et puis on y ajoute d'autres associations.
Aussi. L'association des crématistes.
Et l'association Le Choix Citoyen pour une fin de vie choisie.
Qui est une association, en revanche, qui n'existe pas à Nancy, je ne dis pas de bêtises.
Mais qui a des représentants, effectivement, en Meurthe-et-Moselle, notamment dans le nord du département, une collègue mais qui ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui pour se joindre à nous.
Et en fin d'émission, eh bien, on vous donnera donc tous les liens, tous les contacts possibles de ces différentes associations.
Donc ce collectif a suivi avec attention les travaux de la Convention citoyenne qui a été voulue et organisée par le président Macron et qui s'est déroulée sous l'égide du Conseil économique, social et environnemental. Et cette convention donc rassemble des citoyens tirés au sort, des instances aussi, des représentants de différentes instances. Comme ça, de mémoire, j'ai dû peut-être nous en donner
donc
quelques-unes.
Donc 150 citoyens tirés au sort, ouais, qui ont mené pendant 9 week-ends des travaux, des auditions et un travail vraiment de qualité qui est consultable sur le site du CESE, vraiment un travail de fond de qualité pour arriver à remettre donc début avril un document au président de la République avec des recommandations ou en tout cas des souhaits d'évolution de la loi sur la fin de vie en France.
Alors début avril 2023, puisque cette émission éventuellement repassera ultérieurement, il y a eu cette convention citoyenne. Peut-être que si lui, pour nos auditeurs qui prendraient cette émission en cours, peut nous rappeler l'objet de cette convention citoyenne qui a eu lieu au printemps 2023.
Oui, alors c'est une convention, donc avec, on l'a dit tout à l'heure, des personnes tirées au sort, qui devait répondre à une question qui a été formulée en ces termes. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits?
On va répéter cette
grand, hein,
parce que là, il ne fallait pas sortir des marges. Hein.
Voilà, donc le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Moi, je trouve que la question elle est vraiment pleine de précautions. Hein. Devrait-il, éventuel, peut-être,
en même temps, si différentes situations, théoriquement, on peut brosser toutes les situations et non pas exclusivement certaines situations.
Oui. Exactement. Alors ça qui est intéressant parce que à l'issue de cette convention donc qui a quand même été organisée et menée d'une façon vraiment assez remarquable, hein, faut quand même le reconnaître. Toutes les situations étaient envisagées, toutes les positions prises par les différents citoyens ont vraiment été restituées dans un très très long rapport qui a été réduit en une synthèse plus courte dont on peut donner quelques éléments. Alors d'abord, c'est que la réponse à la question est le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie n'est pas adapté aux différentes situations rencontrées. Donc là au moins c'est simple, la loi Claeys-Leonetti notamment n'est pas suffisante, n'est pas satisfaisante pour traiter toutes les situations. Deux raisons sont mises en avant. D'une part, il y a une inégalité d'accès à l'accompagnement de la fin de vie, donc là on est plutôt sur le pan soins palliatifs notamment, et puis d'autre part il n'y a pas de réponse satisfaisante devant certaines situations de fin de vie. Donc ce qui correspond à cet aspect de la question que tu pointais, les différentes situations rencontrées. Et notamment pour tout ce qui relève de la souffrance physique ou psychique. Et ça, c'est intéressant que ce qui relève de la souffrance psychique ait été pointé par les citoyens de la Convention. Donc il propose plusieurs pistes d'amélioration, notamment développer l'accompagnement à domicile, donner des budgets nécessaires pour un accompagnement effectif. Donc on sait à quel point quand même tout ce qui est budgétisation des projets, c'est vraiment la clé de tout aujourd'hui. Mieux former les personnels de santé, renforcer l'accès aux soins palliatifs, mieux informer les citoyens aussi, et puis améliorer le parcours de soins. Et puis l'autre, et nous c'est ce qui nous paraît important aussi, une grande conclusion qui a été portée par ces citoyens, c'est que l'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert. Donc là, c'est vraiment très important par rapport à notre histoire en France sur la question de la fin de vie, que de manière très forte, la Convention a fait émerger une position très nettement majoritaire. Il est nécessaire de mettre en place à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Donc on peut peut-être rappeler que dans l'euthanasie, quelqu'un fait le geste pour la personne, et que dans le suicide assisté, la personne reçoit toute l'assistance nécessaire pour ensuite, elle, accomplir le geste qui l'amène vers sa propre mort. C'est une différence
importante.
Parce que
c'est en fait, en termes d'autonomie au moment où la situation se pose, c'est-à-dire quelqu'un qui a signifié, alors vous nous le direz en cours d'émission, dans le cadre, pour aller vite, je dirais, ses dernières volontés de pas d'acharnement, etc. Si à un moment donné, il se trouve dans un état où il ne peut plus agir, c'est en ce sens-là qu'effectivement, on peut parler d'euthanasie, c'est-à-dire que c'est à la suite de son souhait qui a été formulé au moment où il avait sa pleine conscience.
Oui, on aura peut-être l'occasion de parler des directives anticipées qui constituent vraiment un outil clé assez méconnu et peu envisagé par tous. Alors c'est vrai que c'est pas un sujet facile à aborder, c'est des questions qu'il faut se poser à soi-même qui sont douloureuses, mais effectivement c'est quand même une ressource dont nous disposons tous maintenant qu'il faut faire connaître.
Alors avant de poursuivre, est-ce qu'on peut rappeler pour nos auditeurs la loi Leonetti actuellement, dans le meilleur des cas, parce qu'effectivement il y a une inégalité au niveau du territoire, même si théoriquement tout le monde pourrait prétendre à ce que la loi prévoit, ça est loin d'être le cas compte tenu de l'absence ou de la modestie des moyens qui sont mis en œuvre. La loi Leonetti consiste en quoi ?
Alors, je dirais la deuxième loi, oui. Claeys-Leonetti, parce qu'effectivement, on ne va pas faire référence à la première loi qui avait été votée en 2006. Je vous rappelle qu'en 2015, le candidat Hollande s'était engagé à ce qui est un droit de mourir dans la dignité qui soit inscrit dans la loi. Finalement, il a confié en fait la révision de la loi aux mêmes personnes qui avaient fait la loi Leonetti de 2005 et à deux personnes qui étaient notoirement pas très favorables à une évolution. Donc on a hérité en 2016 d'une loi qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti qui tient, dont tout le monde s'accorde à ce jour pour dire qu'elle brille par sa non-application. En cinq points. Un point déjà, on parlait des directives anticipées tout à l'heure. On est à ce jour, 2016-2023, plus de 10 ans après, les directives anticipées avaient été créées avant, ont été réaffirmées par la loi Claeys-Leonetti. 13% des Français ont rédigé leurs directives anticipées à ce jour. C'est-à-dire qu'il y a 13% des Français qui sont capables d'avoir réfléchi sur ce qu'ils veulent pour leur fin de vie et de l'avoir exprimé de manière écrite, c'est ça qui est important, et partagé par la deuxième disposition qui est la personne de confiance. Personne de confiance dont les personnes, par expérience, hein, j'anime moi-même des sessions d'information sur le sujet, beaucoup de gens ne font pas la différence entre la personne de confiance et la personne à prévenir, par exemple. Alors que concrètement, la personne de confiance a un rôle dans l'accompagnement de la personne hospitalisée, de la personne malade. Voilà, deux dispositions qui sont méconnues, et malgré qu'elles soient inscrites dans la loi, les gouvernements successifs n'ont jamais fait en sorte que le public s'en saisisse. C'est donc des associations de différents aspects, hein, comme la nôtre, l'UFAL, qui organisons des soirées pour informer, aider les gens à rédiger leurs directives anticipées. Voilà. Donc on n'en est là, une loi, mais rien qui fait que les citoyens se saisissent de ce droit.
Alors qu'on pourrait imaginer des messages genre « manger 5 fruits et légumes », des messages de santé publique,
bien
et
sûr,
voilà.
Bien sûr.
Le problème des directives anticipées, c'est que même si elles sont bien formulées, elles sont enregistrées nulle part.
Mm-hmm. Voilà, contrairement au testament.
Elles sont opposables. Il faut savoir quand même, il y a une association qui les a stockées, en principe, je ne la citerai pas, mais elle est connue. Et voilà,
quelle est cette association, René?
C'est l'ADMD, Association Nationale pour le Droit de Mourir dans la Dignité, la plus importante association avec plus de 70 000 adhérents et qui, depuis 50 ans, milite pour le droit à l'euthanasie et au suicide assisté sous contrôle médical. Donc on va aborder autre sujet clé qui est celui du suicide. Et qui tient un fichier national, bon, parce qu'elle en a pris l'initiative, et qu'effectivement, qui est ouvert à tout un chacun, y compris aux non-adhérents de l'ADMD. N'importe qui peut faire ses directives anticipées, il les envoie à Paris, et l'ADMD peut éventuellement, si un proche ou un parent d'une personne hospitalisée en fin de vie le souhaite, réclamer les directives anticipées de son proche.
Encore faut-il que les gens le sachent. Oui, mais c'est surtout, comme c'est une loi, on pourrait très bien imaginer qu'il existe sur un plan public, de santé publique, au même titre, par exemple, que les notaires, s'il y a un testament, vous mourrez dans le sud de la France alors que vous habitez dans le nord, on sait qu'il y a un testament qui a été enregistré d'une façon, je dirais, quasi publique, même si c'est par le biais, c'est pas Doctolib, mais enfin, c'est quand même quasiment public, on va dire, puisque c'est une charge publique qui est dévolue au niveau des notaires, où ça remonte à une seule adresse. On pourrait imaginer la même chose. Ils le font bien pour les empreintes, y compris la banque ADN et tout ça. On pourrait imaginer que ça tombe sous le sens.
Ça tombe sous le sens.
Il est normal que ce soit une association qui se charge de ce service public.
Qui supplée complètement ce manque.
Alors pour terminer sur la loi Leonetti, parce qu'on en était là. autre point, deux points importants encore à citer sur la loi Leonetti, qui sont notoirement très mal appliquées en France. Donc, la couverture nationale des soins palliatifs est totalement défaillante. Nous en sommes en France au cinquième plan de soins palliatifs, soins palliatifs qui ont été créés, je vous le rappelle, en 1999. À ce jour, on n'a pas une couverture nationale. Certains départements sont dépourvus de services de soins palliatifs à ce jour en France. Et dernier point qui était important dans la loi Claeys-Leonetti, c'était la mise en place de ce qu'on appelait la sédation profonde et continue, qui est aussi un droit, je rappelle, c'est un droit du malade, c'est pas un pouvoir donné à certains de disposer de la vie des autres, c'est un droit du malade de demander la mise en place d'une sédation profonde et continue s'il le souhaite. À ce jour, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, on va pas... À ce jour, tout ce qu'on peut constater, c'est que, et d'une, les médecins encore à ce jour, connaissent très mal cette disposition, peinent à l'appliquer. Et souvent, quand elle est demandée par des patients, elle se voit refuser. Parce qu'effectivement, on est dans une... les textes de mise en application de la loi Clessé-Onetti en ont fait un outil un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes produits que ceux qui servent à donner la mort, sauf que l'intention n'y est pas, vous voyez. Donc on fait, mais il ne faut pas faire. Donc les médecins se trouvent dans une espèce de
no
man's land où on ne doit pas donner la mort parce qu'effectivement c'est interdit. Mais donc la sédation profonde et continue est vraiment utilisée dans les derniers instants, ou à la limite on attend la dernière minute et on laisse des gens dans des situations de souffrance et d'agonie. Ça, c'est tous les témoignages qu'on recueille hein, dans nos permanences, notamment à Ultime Liberté. Le Choix aussi, qui a écrit un livre qui recueille des témoignages de ce type. Voilà, des gens qu'on va laisser agonir et mettre en œuvre la sédation profonde et continue à la dernière minute. Voilà. Donc ça c'est vraiment dans la loi Clessé-Onetti qu'on peut reprocher à ce jour. En tout cas, c'est les constats qui sont partagés, même par la commission parlementaire qui s'est penchée sur le sujet, qui dit qu'effectivement... Ça répond à bon nombre de situations, mais il y a quand même des situations anormales et de souffrances auxquelles on ne répond pas. Quoi.
Et j'ai coutume de dire, hein, si je faisais la même chose à mon chien, je serais effectivement poursuivi pour maltraitance bien animale. Sûr. Non, mais c'est... excusez, auditeur, de faire cette comparaison, mais vous qui avez un animal, quand on sait qu'effectivement, il est en souffrance... Oui. Et que ça sert à rien de faire de l'acharnement. On peut tout à fait faire une agonie, mais simplement, moralement, c'est accepté pour un animal de mettre un terme à sa vie en étant présent. Hein. C'est vrai que chaque fois que j'ai dû mettre un terme, parce que sinon c'était quelques jours d'agonie supplémentaire, eh bien, il y a deux types de piqûres. Une piqûre où, effectivement, elle n'est pas létale, elle ne donne pas la mort, c'est comme pour une intervention, mais on est avec son animal qui est sécurisé parce qu'il est avec une personne de confiance qu'il connaît, et après il y a la mort. Bon, le chagrin, ça nous appartient, c'est autre chose. Mais c'est effectivement quand une personne sait qu'elle va mourir ou qu'elle elle, peut-être dans un délai plus ou moins proche, ou qu'elle est en souffrance psychique, psychologique gravissime, eh bien mieux vaut qu'effectivement la respecter avec ses dernières volontés de pouvoir partir d'une façon sereine, on va dire, et digne. Voilà. Excusez un peu ce parallèle avec un animal, parce qu'effectivement, ça nous parle plus, puisque ça, c'est autorisé au niveau français.
Est-ce que tu dis aussi qu'il est important, pour bien comprendre aussi l'objectif de notre collectif et des associations qui le constituent, c'est que d'une part, nous savons très bien qu'il existe aujourd'hui un personnel qui travaille dans des centres de soins palliatifs et qui travaille bien, qui fait vraiment tout son possible pour accompagner les personnes. Ces centres ne sont pas assez nombreux. La formation peut manquer dans le milieu médical sur cet accompagnement de la fin de vie. Ça, c'est une chose. Mais, et c'est ce que tu avais souligné aussi dans la question qui était posée à la Convention, ce n'est vraiment pas suffisant. C'est-à-dire que cette question des soins palliatifs est sérieuse. Et d'ailleurs, elle a été envisagée aussi dans des propositions de loi. C'est-à-dire que je crois que maintenant, en France, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions. On a ces propositions de loi, notamment celle portée par deux députés, il y avait Caroline
Falorni, Fiat
et Falorni, hein, Falorni, monsieur oui. Falorni.
Oui, de bord puis, politique un peu, voilà,
oui,
différent.
Voilà.
Et puis tout ce travail de la Convention citoyenne. Convention qui d'ailleurs dit aussi qu'il faut sortir du seul cas de maladie incurable, etc. C'est-à-dire qu'il ouvre vraiment la réflexion et ils étaient quand même assez nombreux à défendre cette idée de l'accès à un moyen pour mourir, un accès universel. C'est-à-dire que vraiment donner à chacun la possibilité de choisir sa mort. Et ensuite, chacun voit selon sa situation. Il ne s'agit pas d'une injonction à mourir à un moment donné, comme on l'entend parfois. Il ne s'agit pas de dire bon, il faut quand même qu'on libère un peu les hôpitaux, les centres palliatifs, à coups de piqûres à considérer. Il ne s'agit pas non plus de faire croire, de faire entendre aux gens qu'ils seraient devenus inutiles, encombrants, et que vraiment, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour leur demander de partir rapidement. Ça, c'est vraiment la caricature de ceux qui s'opposent à ce que nous plaidons, nous voulons, nous souhaitons, nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une prise en compte de la volonté de chacun. Nous avons accueilli Il y a quelque temps, le philosophe François Guélichet, que le collectif a invité à Nancy, une belle conférence. Excellent avec aussi conférence, le docteur Labelle, hein. du choix. Et lui parle de mort délibérée, c'est-à-dire que vraiment, on a réfléchi, on a délibéré avec soi-même, avec les autres aussi, pourquoi pas, autour de soi, pour se dire que voilà comment on voudrait que notre vie se termine. Et choisir le moment de notre mort et la façon dont notre mort aura lieu, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de notre liberté de conscience. Donc libre à chacun après pour X raisons de choisir, d'attendre que la mort vienne d'elle-même, voilà. Mais libre aussi à ceux qui le souhaitent de choisir le moment de leur mort.
Parlant d'ultime liberté, je voudrais quand même rappeler, si vous voulez, les objectifs d'ultime liberté que je vais vous lire rapidement parce que c'est très bref. Hein. Voilà ce que demande ultime liberté. La liberté de disposer de sa personne, de son corps, de sa vie... Et donc de sa mort. 2. La liberté de choisir le moment, le lieu et les modalités de sa mort. 3. La liberté reconnue par une loi de recourir au suicide assisté ou à une euthanasie volontaire. Donc là, on a déjà abordé le sujet. Lorsque l'intéressé se trouve dans un état où il ne peut plus communiquer et qu'il a exprimé clairement sa volonté, ce sont donc les directives anticipées. La liberté, alors qui est excessivement pour nous un point clé, la liberté d'accéder aux produits létaux.
Donc qui donne la mort. Hein,
qui donne la mort. Voilà. On va même mettre un nom là-dessus, sur ce produit létal qui est effectivement... reconnu comme étant le plus efficace, c'est le pentobarbital de sodium, qui vous assure un décès rapide et sans douleur en moins de 10 minutes.
Et c'est donc...
J'en parle, hein,
oui.
Parce que c'est pas un sujet tabou.
Tout à fait, voilà. Et puis mieux vaut dire les choses comme, effectivement, voilà. J'ai toujours coutume de dire dans cette émission de brassage, si on donne des informations, on les source, donc mieux vaut donner des informations fiables, données donc en lien avec des associations qui ont pignon sur rue, que d'aller pianoter sur des réseaux internet, et puis, je sais pas moi, d'avoir préconisation de jus de betterave avec de l'eau de javel, je dis n'importe quoi. Bien sûr. Non, mais voilà. Mais c'est surtout qu'effectivement, ces produits sont utilisés dans d'autres pays limitrophes de chez nous. Et qu'en est-il, puisque pour l'instant c'est illégal en France, alors que ces produits sont utilisés de l'autre côté de la frontière, hein, et on parlera des inégalités de traitement, hein, certaines personnes ou personnalités. Hein, j'aimerais bien que vous relatiez ce dont on parlait auparavant. Peuvent utiliser effectivement des moyens légaux européens qui sont illégaux et suivis de poursuites judiciaires en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu à ce niveau-là?
Tu évoques effectivement les poursuites judiciaires, donc Ultime Liberté, il y a encore quelques années, avait effectivement un fournisseur de produits de pentobarbital fiable, garanti, dans lequel nous avions pleinement confiance, et un certain nombre de nos adhérents avaient commandé ce produit. Je rappelle que la plupart des adhérents d'Ultime Liberté qui avaient opté pour avoir le pentobarbital, qui était encore en relativement bonne santé, ne l'ont jamais utilisé.
C'est ce que disait d'ailleurs
la conférencière. Vous ne devez pas vous rendre compte de la sécurité que peut avoir, j'allais dire, une personne qui arrive en âge, de se dire effectivement... Le moment venu, je sais que j'ai l'assurance de partir comme je l'entends, où je voudrais. Et cette sécurité permet d'investir à 100% sa vie, et puisqu'effectivement on est libéré de ce
voilà.
souci.
Et c'était un élément dans la conférence qui a eu lieu à Nancy, à l'hôtel de ville de Nancy, qui est effectivement, moi qui m'avais surprise, entre guillemets, mais agréablement surprise, c'est parce qu'on a la possibilité de, que l'on ne va pas l'utiliser, mais on sera davantage serein.
Exactement.
Et ça, c'est chiffré au niveau justement des autres pays européens qui l'autorisent et qui savent que tel un certain nombre de pourcentages, pas négligeable, hein, un pourcentage important, de fait, même dans des situations difficiles pour elles, ne mettaient pas fin à leur vie parce qu'elles savaient qu'elles pouvaient le faire si besoin.
Voilà. Tout à fait. Ça, c'est ce que constatent aussi certaines associations qui accompagnent des patients qui vont passer en Belgique, si je peux me permettre l'expression.
Oui, oui, tout à fait.
Qui, effectivement, une fois qu'ils ont acquis ce droit, je dirais, quelque part, ou en tout cas cette reconnaissance de leur souffrance, et savent qu'ils pourront mettre fin le moment venu selon leur choix, eh ben, on la force de lutter jusqu'au bout.
Et souvent
ne font pas recours aux produits ou à la démarche en Belgique.
À la suite de ces préconisations de la Convention citoyenne, de l'état des lieux, bien sûr, sommaire que nous avons pu faire sur cette nécessité que la loi évolue en France, eh bien, je laisse mes invités parler de l'inégalité de solutions qui sont apportées selon que vous serez riche ou pauvre, un peu comme la fable de La Fontaine, des personnes qui se sont battues contre l'évolution de la loi. Et on sait que,
On sait que, effectivement, la situation actuelle en France est doublement inégalitaire, je dirais, quelque part. Quand on se retrouve dans cette situation, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INED, hein. Il y a en gros 3 à 4 000 euthanasies clandestines en France chaque année. C'est-à-dire qu'il faut avoir la chance de tomber sur un médecin humain, compatissant, et qui va se rendre compte de la situation et qui pratiquera. Voilà. Donc il y a des médecins, effectivement, qui savent aller jusqu'au bout, mais ils sont mis en difficulté. Il faut surtout pas que ça se sache. Il y a eu des affaires, effectivement, où des médecins ont été mis en cause, ont été condamnés, et voilà. Donc il y a il faut avoir la chance. Alors déjà, le facteur chance est quand même assez inégalitaire.
Chance ou réseau, non?
Ou réseau, mais parfois les réseaux ne suffisent pas. Hein, dans le livre qui a sorti Le Choix, effectivement, même certaines personnes, hein, qui sont médecins de formation, tout ça, se retrouvent dans des situations d'accompagner des proches où ils n'ont pas de solution. Voilà, c'est vraiment de tomber sur la bonne personne. Et ensuite, effectivement, l'inégalité pécuniaire, liée à l'argent. Partir en Suisse, partir en Belgique, ça a un coût, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et moi, ce qui m'a vraiment heurté, effectivement, c'est de voir certains politiques, hein, il y a une secrétaire d'État à la famille, me semble-t-il, là, du gouvernement Jospin, qui toute sa vie a lutté contre l'évolution de la loi pour finalement aller partir, finir sa vie en Suisse, tant mieux pour elle, je veux dire, et c'est bien, je veux dire, ça va dans notre sens, mais quelque part, tout le monde ne peut pas se le permettre.
Elle aurait pu témoigner au moins avant de prendre son billet,
Elle l'a fait, on va pas enlever ça, et
donc,
puis voilà. Mais quelque part, ça prouve bien qu'il y a une situation...
Cette hypocrisie
où on dénie, je veux dire, aux citoyens, lambda, qui n'a pas les moyens de se payer un voyage en Suisse. C'est 10 000 euros environ pour partir mourir en Suisse. Bah, tout le monde n'a pas 10 000 euros s'il se trouve dans une situation désespérée. Voilà. Donc ça, effectivement, je pense qu'il faut vraiment qu'on le dénonce.
Et... ensuite, justement. Alors, par rapport aux poursuites judiciaires, avant de parler des préconisations que vous pouvez donner au niveau de l'information de nos auditeurs, au niveau de poursuites judiciaires en France actuellement.
Alors, il y avait 18 personnes qui ont effectivement reçu, maintenant, il y a 3 ans, à 6 heures du matin, un dimanche, la visite des gendarmes, qui avaient... sur une information venant des États-Unis concernant un éventuel trafic de stupéfiants, avait effectivement donc le service santé du tribunal de Paris qui s'entretenait a donc lancé une enquête et avait retrouvé effectivement une liste de gens ayant via Internet commander un produit, ce produit létal qui est effectivement interdit. S'était rendu compte que tous ces gens étaient adhérents d'une même association, Ultime Liberté, pour ne pas la citer, et un dimanche matin, 6 heures du matin, partout en France, les gendarmes ont débarqué en disant « Monsieur, Madame, tel jour, vous avez commandé du pentobarbital à tel fournisseur, donnez-nous, on saisit votre produit et vous allez être inculpé. » Alors les gens prient un peu, j'allais dire, 6 heures du matin, vous voyez, quand vous avez 80 berges, et que les gendarmes sonnent, avec toutes les informations, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leurs produits. Il y en a deux ou trois, quand même, qui ont été assez malins. Un qui a dit, oui, ben vous savez, moi, c'était dans des flacons, le flacon, il s'est cassé, alors j'ai tout jeté dans les billets. Pas de souci. Lui, il n'a pas été poursuivi. Un autre a dit, oui, effectivement, j'ai eu le produit, mais je vous dirai pas où il est. Alors, tout le monde reconnaît que les gendarmes ont été très, très clean. Ils ont pris note. Bon, et puis il en est resté 18 qui ont été inculpés. On attend toujours qu'il soit jugé. Voilà. Depuis 3 ans.
Voilà quand même à quoi on en est réduit quand la loi n'évolue pas. Oui. Et tout à l'heure, on disait qu'on a maintenant tout l'arsenal de réflexion et juridique, etc. pour avancer. Et il y a des freins institutionnels qu'il est important de
voilà,
souligner.
Je pense qu'on va conclure sur ces freins actuellement.
Gilles, oui, je pense qu'il faut qu'on soit... c'était vraiment le sens du communiqué qu'on t'a fait parvenir.
Et du collectif Laïcité, fin de vie.
Voilà. Il est clair, et là-dessus, je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste. La Convention citoyenne avait à peine rendu ses conclusions, on les avait à peine données le 2 avril au président de la République, qu'on a vu fleurir effectivement, et ça tout le mois d'avril, tout le mois de mai, et ça continue encore à ce jour, des réactions qui n'ont pas cessé d'opposition, mais je dirais épidermique à toute évolution de la loi. Opposition de l'ordre des médecins, qui n'a jamais brillé réellement par son modernisme, je dirais. Hein. On l'a vu au moment de la loi Veil, on l'a vu au moment de la PMA, et on le voit là sur la fin de vie, avec la mise en avant, effectivement, d'une opposition, en tout cas portée par sa voix, du corps médical à vouloir évoluer sur ce sujet. Et ça reste la position de l'ordre des médecins. Quand on écoute les médecins, je pense que, on le disait tout à l'heure, effectivement, il y a des médecins qui, à ce jour, clandestinement, parce qu'effectivement, ils éprouvent de la compassion pour leurs patients, pratiquent des euthanasies et faut pas le nier. Voilà. Donc, il y a cette position ordinale, je dirais, quelque part, qui reste assez réactionnaire à notre sens. L'autre grosse opposition, c'est les milieux, tous ceux qu'on a retrouvés bras dessus, nous militants laïcs, au moment du mariage pour tous, pour s'opposer à un droit, je veux dire, qui était somme toute qu'un droit républicain ouvert à tous les couples qui avaient envie de vivre ensemble. C'est tous les religieux, et là-dessus, je les mets tous dans le même sac.
Oui, quelles que soient
leurs obédiences, quelles que soient leurs
monothéistes de préférence,
voilà.
Mais
et
pas
que effectivement, toutes les religions du livre, là, se retrouvent opposé effectivement au nom d'une sacralité de la vie à ce droit de mourir dans la dignité que nous définissons de manière laïque comme le droit à l'autonomie, c'est-à-dire le droit, comme disait Sylvie tout à l'heure, à sa propre liberté de conscience, mais pas quelque chose qu'on doit à Dieu. Hein. Et malheureusement en France, je pense, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur les soins palliatifs, ce qui nous pénalise en France à ce jour, c'est que les soins palliatifs en France ont été livrés corps et âme à une institution représentative qui s'appelle la Société française des soins palliatifs, qui est de toute évidence, et c'est bien connu, noyautée par des gens qui de forte obédience catholique. Voilà. On retrouve, on le retrouve dans leurs discours, on le retrouve dans les campagnes de presse qu'ils mènent actuellement, et il y a une réelle opposition. Pour eux, il y a une opposition ontologique entre l'euthanasie et les soins palliatifs. Chose que nous dénonçons. On est bien là dans l'idéologie. Il suffit de passer la frontière, on n'est pas loin de la Belgique, pour se rendre compte que la fin de vie en Belgique se passe, il y a des euthanasies qui sont pratiquées dans des services de soins palliatifs, qui le sont par des médecins, donc il n'y a eu aucune opposition ontologique au fait que ça puisse se faire. On est bien dans de l'idéologie. Et du dogme.
Et qui se voit d'autant plus nettement que quand on se tourne vers la prose de cette association, on voit bien en quels termes parfaitement inadmissibles ils évoquent la question du suicide assisté. C'est-à-dire que vraiment faire entendre aux gens qu'on est vers qu'on se tourne vers l'assassinat et vers le meurtre.
Alors,
c'est
ce
vraiment
que je
inadmissible.
Vous propose, puisqu'effectivement cette émission arrive à son terme, c'est d'une part de donner les coordonnées des différents collectifs où effectivement justement nos auditeurs pourront en savoir davantage. Moi, je renvoie parce que j'ai, lors de cette conférence, j'avais acquis donc deux livres de Denis Labelle, Le médecin, la liberté et la mort, pour le droit de choisir sa fin de vie. C'est aux éditions Plon et il vous en coûtera 19 €. Et comme je dis, si vous voulez pas l'acheter, vous le faites acheter à la médiathèque la plus proche et vous l'empruntez. Nadia Gertz, L'après-midi sera courte, plaidoyer pour le droit à l'euthanasie chez l'Harmattan. Et puis, j'ai entre les mains un OPS, l'OPS, donc fin de vie, le manifeste des 109 pour faire évoluer la loi. Donc, citation, notre mort doit nous appartenir, de Nathalie Bay. Voilà, donc c'était l'OPS qui est au printemps. Et simplement, je vous laisse la possibilité de donner vos différentes coordonnées avant de nous quitter.
Pour la Libre Pensée, vous pouvez toujours aller voir sur le site FNLP, la Libre Pensée au National, vous trouverez différentes informations. Notamment, on peut juste en dire un mot, une autre association, un autre collectif qui s'appelle le Pacte Progressiste de Fin de Vie. Et si vous voulez nous joindre, nous, on a une adresse mail, librepensée54@proton.me.
Voilà.
Merci.
Pour l'Union des familles laïques, vous pouvez nous joindre soit sur le site national, localement, on a juste une page Facebook, UFAL54, voilà, tapez, puis on peut laisser un message par ce biais.
Ah, on a une page Facebook aussi.
Alors, Ultime Liberté, vous allez sur Internet, vous tapez Ultime Liberté et vous avez tombé immédiatement sur la première liste, Ultime Liberté. Le siège, les modalités de fonctionnement et le reste. Bon, Ultime Liberté a actuellement au niveau national 37 antennes locales, dont une à Nancy, qui se réunit le premier mardi de chaque mois de 16h à 18h à la MJC des Trois Maisons à Nancy. Ouverte à tous ceux qui le souhaitent, donc adhérents ou non-adhérents. Il y a un numéro de téléphone dédié pour l'antenne de Nancy, 06 51 51 90 49.
06 51 51 90 49. Eh bien, je vous remercie tous. Et puis, un grand merci à Pierre Baudot pour cette mise en onde de Brassage Fin de Vie Choisie que vous pouvez retrouver sur rcn-radio.org.
On est bien peu de choses et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille.
Pourtant, donc cette émission dont je me suis largement inspiré pour ce florilège 2023 à suivre en 2024, dont la première diffusion a lieu le 18 janvier 2024, cette première partie de florilège que vous pouvez retrouver de 10h à 11h avec une rediffusion à minuit, et bien est consacrée à cette fin de vie choisie. Et justement, eh bien, d'une façon très dramatique, Françoise Hardy a écrit à Emmanuel Macron pour demander que cette loi soit enfin votée du fait de ces années dramatiques qu'elle vit, compte tenu justement de l'absence de loi qui permet de mettre un terme dignement à sa vie. Avec mon amie La Rose, nous accompagnons ce vœu et surtout, effectivement, nous constatons que cette 5e République, qui a été faite pour et par De Gaulle par rapport à un contexte de guerre, la guerre d'Algérie, eh bien, arrive en bout de souffle, comme nous l'interprète aussi Charlie Chopin avec Monarchie républicaine.
Si peu de choses, c'est mon amie La Rose qui l'a dit hier matin.
Française, Français. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Hein? Je suis président de droit divin.
Eh, bastade là, tu vois pas que c'est moi. Ils ont troqué Versailles contre l'Elysée. C'est vrai que c'est un peu dur pour se chauffer. Remplacer les Tuileries et Richelieu par Matignon et un bourgeois bien heureux.
Ah bon ?
Paraît que les privilèges ont été abolis. Mais alors qu'est-ce que l'immunité politique ?
Tout à fait.
Gagner 12 fois par an, 10 fois le SMIG. Un chauffeur, un logement, ouais, des pompes qui brillent. C'est une monarchie républicaine. C'est ça le truc, ouais, c'est ça le blême. C'est une monarchie républicaine. Les noms ont changé, mais les cons sont les mêmes. Si ça ne sont pas des privilèges, qu'est-ce que ce mot veut dire ? Quand des milliers de gens tendent la main pour survivre, le SMIG, le RMI, des usines qui s'enfuient, font naître chaque jour le cerf de l'avenir. À 14 juillet, le pain manquait à Paris, et des rues, une révolution soudain a surgi. Elle devait être pour le peuple, mais elle l'a trahi. Des milliers de têtes sont tombées sous la guillotine, car c'est une monarchie républicaine. C'est ça le truc, ouais, c'est ça le blême. C'est une monarchie républicaine. Les noms ont changé, mais les cons sont les mêmes. On devait être égaux en droit.
Écoutez, tout à
fait. Mais que vaut la parole de celui qui est différent,
différent.
Mais que devient donc le droit quand il s'agit de petites gens?
Évidemment, Bernadette, Oeteu.
Profite toujours à quelques plus grands.
Ah bon?
Qui vivent jour après jour de la famine des gens.
Tiens, tiens.
On ne l'appellera plus roi mais président. Mais ils ont en commun d'être des forbans. C'est une monarchie républicaine.
Républicaine.
C'est ça le truc, ouais, c'est ça le blême. C'est une monarchie républicaine. Les noms ont changé mais les cons sont les mêmes.
Mais il restera toujours des troubadours dans les tavernes, des faubourgs,
des faubourgs.
Pour dénoncer à grands coups d'humour que l'histoire se répète.
C'est une monarchie républicaine. C'est ça le truc, ouais, c'est ça le blême. C'est une monarchie républicaine. Les noms ont changé mais les cons sont les mêmes. Monarchie républicaine. C'est ça le truc, ouais, c'est ça le blême. C'est une monarchie républicaine. Les noms ont changé mais les cons sont les mêmes. C'est une monarchie républicaine. C'est ça le truc, ouais, c'est ça le blême. C'est une monarchie républicaine. Les noms ont changé mais les cons sont les mêmes. Les noms ont changé mais les cons sont les mêmes. Les noms ont changé mais les cons sont les mêmes.
Allons, allons.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Brassage consacré au Florilège 2023, trois petits points à suivre en 2024, et sur cet aspect sociétal de la fin de vie choisie. Et cette première partie, vous pouvez la réécouter sur le www.rcn-radio.org. Et comme nous sommes encore en janvier 2024, eh bien, je profite d'une part de Jacques Simard pour vous dire à vous, auditrices et auditeurs, eh bien, bonne année et permettez que je vous embrasse. Alors, je ne vais pas l'embrasser parce qu'il est de l'autre côté de toutes ces manettes, mais également, meilleurs vœux à toi, Pierre, Pierre Baudot.
Et si pour une fois on ravale nos frousses, oubliant le pourquoi de l'histoire à nos trousses, et si pour une fois, contre nos différences, on tentait l'expérience de se tendre les bras. Et si pour une fois on cessait les grimaces, d'être trop à l'étroit dans nos vies, nos espaces, pour voir un peu plus loin que le bout de nos peurs, pour à brûle pourpoint se serrer en plein cœur. On est seul ici-bas, mais on a 100 fois la place d'ouvrir nos petits bras pour les copains qui passent. On va pas rester là, se regarder face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. Et si pour une fois on faisait fi des autres, des valeurs et des lois pour écouter les nôtres, On est tous ici-bas de même sang, de même race, croulant sous les mêmes poids et vers la même impasse. Et si pour une fois on s'offrait cette offense, tant qu'on en a le droit, tant qu'on en a la chance, de faire un peu de place auprès de nos confiances, de s'ouvrir l'espace de nos états d'urgence. On est seul ici-bas, mais on a 100 fois la place d'ouvrir nos petits bras pour les copains qui passent. On va pas rester là, se regarder face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. Et si pour une fois je vous brisais la glace, qu'on me voit comme je vous vois derrière la carapace, si j'osais l'impudence de faire le premier pas, en mon âme et conscience, que diriez-vous de moi? Et si pour une fois j'osais la confidence, quoi qu'il en soit et quoi qu'ils en pensent, je suis juste un petit gars de l'est de la France qui a besoin de vos bras pour se donner du sens. Je suis tout seul ici-bas, mais j'ai 100 fois la place d'ouvrir mes grands bras pour les copains qui passent. On va pas rester là, briller face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. On est seul ici-bas, mais on a 100 fois la place d'ouvrir nos petits bras pour les copains qui passent. On va pas rester là pleurer face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. On est seul ici-bas, mon instant voit la place d'ouvrir nos petits bras pour les copains qui passent. On va pas rester là se regarder face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. On est seul ici-bas, mais on a 100 fois la place d'ouvrir nos petits bras pour les copains qui passent. On va pas rester là à prier face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse.